Bonjour, ici Rémi Giguère. Voici votre bulletin du mercredi 5 novembre 2025. Selon le Front d'action populaire en réaménagement urbain, le FRAPRU, le premier budget du gouvernement Carney représente une occasion ratée de s'attaquer avec sérieux aux problèmes de logement et d'itinérance. Le FRAPRU reproche au ministre fédéral des Finances de ne pas accorder de budgets additionnels à Maison Canada, la nouvelle agence censée construire des logements abordables à grande échelle. Pour le FRAPRU, le budget Champagne n'aura donc pas renfloué les initiatives fédérales destinées au développement de logements sociaux et communautaires, alors même qu'il préserve les nombreux avantages fiscaux profitant aux contribuables à très hauts revenus et aux grandes entreprises. Plus de 1300 personnes ont assisté dimanche dernier à la collation des grades de l'Université du Québec à Rimouski à Lévis. Cette année, l'université a décerné 1445 diplômes à ses finissantes et finissants de tous les cycles, soit 1065 au premier cycle, 370 au deuxième cycle et 10 doctorats. Lors de cette journée lévisienne, un doctorat honorifique a été remis à Viviane Labrie, reconnue comme une pionnière de la lutte contre la pauvreté au Québec. Viviane Labrie s'est engagée dès les années 1970 dans des recherches et des actions sociales aux côtés de personnes souvent en marge de la société. Grâce à ses recherches, à ses écrits et à son action citoyenne, elle a su transformer ses convictions en levier de changement. Le comité des citoyennes et citoyens du quartier Saint-Sauveur lance l'aimant « Locataire, vous avez des droits » qui comporte un numéro de téléphone et une adresse courriel pour les locataires qui ont des questions, veulent connaître leurs droits ou ont besoin d'aide. En contactant le comité aux coordonnées indiquées sur l'aimant, un locataire pourra au besoin obtenir de l'accompagnement individuel. Les aimants sont disponibles gratuitement au local du comité, au 301 rue de Carillon. Le Pignon Bleu invite la population à visiter l'exposition « Les racines d'un parcours » à l'occasion de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles. Cette exposition porte sur des travailleurs en insertion socio-professionnelle qui partagent leur parcours migratoire. Elles et ils ont fait le parcours en tant qu'aide cuisinière ou aide cuisinier au Pignon Bleu. On y découvre leur histoire, leur parcours et leur enracinement au Québec. Le vernissage de l'exposition a lieu ce soir de 16 à 19 heures à l'Engrenage Saint-Roch, situé au 560 rue Saint-Joseph-Est, où l'exposition sera accessible de 16 heures à 17 heures jusqu'à samedi inclusivement. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Bonjour à tous, chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'émission Première Langue sur les ondes de CKIA 88.3 FM, une émission consacrée à la valorisation des langues autochtones au Québec, au Canada et à travers le monde. Je suis Cécilia Alexandre et j'animerai cette émission avec Véronique Odette. Kwe, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le 22 octobre, on est en direct de la chapelle du Petit Séminaire. Kwe, Véronique?
Kwe.
Nous avons avec nous Roger Wild. Kwe, Roger?
Oui.
Roger, tu es Anishinaabe de Pikogan, si je ne me trompe pas. Je te laisserai peut-être d'abord te présenter avant qu'on commence à parler.
Oui, je suis Roger Wild, Nijnikas, Anishinaabe, Abitibi-Uni, de Nin, Pikogan, Dijidashike. J'habite Pikogan, c'est le village que j'ai vu grandir, j'ai vu naître, mais... Je suis Abitibi-Uni, une personne du lac Abitibi, parce que c'est là que les gens, nos gens, nos parents, grands-parents, puis ça remonte loin, se rassemblaient à chaque année. Et un peu comme aujourd'hui, cette semaine, avec la Boîte Rouge Vif, avec le Musée de la Civilisation, c'est un peu dans le même contexte où ce que beaucoup de gens se rencontrent. Donc, la continuité des rassemblements continue de la manière moderne, avec tous les moyens modernes. Sauf qu'à l'époque, les gens se déplaçaient en canot pour se rassembler. Fait que le lac Abitibi, qu'on appelle Abitibi-Matutaouga, c'est la pointe aux Indiens, Anishinaabe dans notre cas. Fait que moi, je viens de là, mes origines viennent de là. Sinon, il y a le territoire qui est aux alentours du lac Abitibi parce que les gens viennent de tous les horizons, de tous les endroits. Et nous, on vient du côté du Québec. Nos territoires sont au nord-est du lac Abitibi. Donc, une fois que les gens se rassemblent, bon, ben, ils retournent sur les territoires, évidemment, pour faire leurs activités et ainsi de suite, passer l'hiver. Fait que, c'est un petit peu ça. Pikogan est né dans les années 50, 56, et puis les premières maisons ont été construites dans les années 60, 63, 64. Fait que j'étais tout petit garçon. Et évidemment, aujourd'hui, il y a une population d'au-dessus de 500 personnes, donc beaucoup de maisons. Ça grandit. Mais c'est sûr, en étant Pikogan, moi j'ai été à l'école de la ville d'Amos, qui est tout à côté. Fait que j'ai appris évidemment la culture québécoise, franco-canadienne, puis on name it, là. Fait que moi, je suis allé à l'école jusqu'au secondaire pour apprendre évidemment une nouvelle, la société blanche. Et parce qu'avant ça, je parlais juste Anishinaabe. Quand je suis rentré en sixième année, la première année, l'alphabet, là, c'était, je reconnaissais pas. Fait que ça a pris un moment avant de comprendre l'alphabet et puis de pouvoir évidemment le communiquer. Fait que c'est un petit peu ça. J'ai grandi là-dedans. J'ai découvert le dessin par la catéchèse, parce que la catéchèse, il y avait quelque chose où ce qu'on pouvait dessiner, tu sais, des petits Jésus, là, j'en ai dessiné pas mal. Mais ça m'a permis de découvrir le dessin, puis plus tard, les arts plastiques. Puis c'est ce qui m'a amené vers ça aujourd'hui, les arts plastiques, puis ça a évolué, je me suis perfectionné, fait que j'ai été souvent attiré par les arts plastiques parce que c'était toujours un vendredi après-midi. Après ça, c'est fini l'école. Fait que c'est une façon de bien conclure, bien finir la semaine pour ensuite, évidemment, retourner à la maison. Moi, j'ai pas été au pensionnat, mais j'ai quand même subi les dommages collatéraux là, des pensionnats, parce que mes frères et sœurs ont tous été pratiquement au pensionnat. Saint-Marc, c'est là qu'ils sont allés. Et l'année où ce que moi je suis rentré à l'école, c'est l'année où ce qu'on a arrêté d'envoyer les enfants à Saint-Marc. Ça a continué avec d'autres communautés, là, mais nous, les gens de Pikogan ont arrêté d'envoyer les enfants. Fait que suivant ça, évidemment, je suis allé à l'école jusqu'au secondaire, puis tu sais, à un moment donné, le secondaire, je me sentais plus à ma place. De toute façon, je pouvais plus retourner à l'école parce que de répéter le secondaire 4 une troisième fois, pour moi, c'est un point tournant dans ma jeunesse où ce que c'est quelque chose qui m'a amené vers d'autres choses. C'est-à-dire, je devais annoncer à mon père que je pouvais plus, tu sais, retourner à l'école parce que j'étais rendu trop vieux, puis il y avait des jeunes qui allaient nouvellement rentrer au secondaire, puis. Fait que je l'ai annoncé à mon père, j'ai dit, ben là, avec beaucoup de crainte et d'appréhension, comme quoi il allait me faire la morale. parce que j'étais un peu désigné à être celui à apprendre l'école. Fait qu'il m'a dit OK. Je lui ai annoncé, j'ai dit OK, Aïda, je peux plus retourner à l'école. Fait qu'il me dit OK. Je vais t'amener à une autre école. Fait que j'ai compris un peu le sens de ce qu'il venait de me dire. C'est-à-dire, il va m'amener dans le bois. Fait que c'est ce qui est arrivé, de réapprendre la vie en forêt. Tu sais, j'avais comme, tu vois, 16, 17 ans environ quand j'ai arrêté. Fait que, tu sais, ça a pris des années de réapprendre. La survie en forêt, reconnaître des choses, aller à la chasse, à la pêche. Ça a pris des années avant de reprendre ces affaires-là. Mais j'ai pu quand même faire un équilibre entre ce que j'ai appris à l'école, puis aussi entre ce que j'apprenais aussi en forêt. Fait que c'est sûr que ça demandait beaucoup de temps, mais aussi beaucoup de patience, parce qu'on est, en étant jeune, tu sais, on sait plus trop où est-ce qu'on en est par rapport à l'école, la vie en forêt. On est comme un peu tiraillé au niveau de notre identité. Tu sais, crise d'adolescence, mais aussi crise identitaire. C'est quoi notre place dans la communauté, dans la famille? Parce que on apprend évidemment le français, un petit peu d'anglais au travers de ça. Fait qu'on, moi, je suis devenu trilingue parce que j'étais capable de communiquer encore en Anishinaabe, mais j'ai perdu un peu de connaissance du vocabulaire en Anishinaabe parce que l'Anishinaabemowin se parle en forêt. Parce que le parler, c'est toutes des choses qui est en lien avec la vie en forêt et tout ce que ça comporte. Et que ça, j'en ai beaucoup perdu, mais sauf qu'en réapprenant certaines choses, on peut les récupérer, si on veut, là, puis continuer à parler avec nos parents, puis les gens qui le parlent à ce moment-là. Puis on était quand même assez nombreux là, à pouvoir le parler encore. Et puis aussi avec la découverte de des arts plastiques, le dessin, tout ça, ça m'a permis aussi d'aller... Oui, je suis devenu, en quelque sorte, ça, avec toute humilité, évidemment. Ça m'a permis aussi, pendant des années scolaires, de regarder ma mère, mes soeurs, faire de l'artisanat. Parce que mes frères aînés, eux autres, partaient avec mon père dans le bois à la chasse, puis... Puis le seul moment où ce que moi je pouvais aller en forêt, c'était l'été, quand j'étais à l'école. Mais après ça, ça a changé. C'était pas à l'année, là, mais certains moments pendant l'année, l'hiver, au printemps beaucoup, l'été évidemment, pour les cueillettes, la pêche et tout ça. Fait que tout ça, évidemment, s'est mis en branle. Au niveau, oui, au niveau des arts, au niveau de l'artisanat, puis apprendre aussi des activités de travailler le cuir, tu sais, faire des choses comme ça. Fait que ça m'a amené à explorer d'autres avenues parce que j'ai fait aussi un petit peu de sculpture. Tu sais, expérimenter certaines affaires, dont des masques que j'ai sculptés. Mais en faisant ces choses-là, moi, je découvrais aussi mon appartenance, tu sais, le masque, c'est pas Anishinaabe, mais je l'ai tenté, puis on me l'a dit aussi, non, t'es pas Anishinaabe, ce que tu fais là. Oui, mais je voulais le tenter parce que je trouvais ça beau, puis là, ben, j'ai sculpté ça, des totems, fait que ça aussi, tu sais, il y a pas de totems chez nous, mais, tu sais, ça a donné quand même un beau résultat, mais, tu sais, c'est là que tu découvres que moi, OK, j'ai pas de lien avec ça. Fait que mon parcours, c'est un petit peu ça. Ça a duré comme ça pendant des années. On vit une vie de jeunesse, évidemment, au travers de ça. Puis plus tard, dans la vingtaine, c'est sûr que tu te poses des questions. Moi, dans mon cas, je me posais toujours des questions, vraiment les origines, parce que avec mon père, c'était comme un point de départ de retourner en forêt. Puis après ça, de voir aussi quelque chose qui manquait vraiment dans la communauté. Oui, on chasse, on pêche, on mange de la bouffe traditionnelle, on fait des magouchanes, on fait des trucs de fête et tout ça. Mais une chose essentielle qui manquait, c'est la vie spirituelle traditionnelle, parce que nos gens étaient croyants, là, ils le sont toujours. Donc l'Église prenait une place importante jusqu'au point où, dans le passé, il y avait une emprise sur nos parents, nos grands-parents, puis le côté plus traditionnel de nos croyances, t'sais, qui proviennent vraiment de la source Anishinaabe, il n'y en avait pas. Fait qu'il fallait comme aller ailleurs. Puis c'est ça beaucoup qui manquait dans nos activités. Il y avait l'Église. Fait que t'sais, si tu voulais prier, ben, tu vas à l'Église. Les dimanches, ben, les croyances Anishinaabe, la vie spirituelle Anishinaabe, c'est tous les jours. Et, tu sais, comme aujourd'hui, la journée nationale des peuples autochtones au Canada, ben, c'est tous les jours. Pour moi, là, c'est pas une journée par année. Fait qu'il y a toutes ces choses-là qui se présentent devant toi, qui t'amènent à te poser des questions sur des différentes choses qui composent l'univers autochtone. Anishinaabe, dans mon cas, c'est très vaste. Il y a pas de... ça finit pas. Parce que c'est un cycle. C'est un cycle, c'est un cercle qui est infini. Puis dans notre vie, il y a des activités pour chaque saison. T'sais, on en a six. Là. Il y en a deux qui viennent s'ajouter parce que, étant nomade, quand on se déplace sur le territoire pour partir du camp d'hiver pour aller vers le camp de printemps et été, c'est un moment important qui nous amène il y a le printemps, il y a l'ouverture des rivières, les glaces qui partent. C'est après ça qu'on peut se déplacer pour aller changer de campement. Parce que tout aussi le soleil qui se positionne par rapport à le campement, l'hiver, par exemple. Le campement d'hiver, c'est un endroit où ce que ça abrite. Ça nous abrite parce que le vent du nord arrive de telle place, ça arrive du nord, puis c'est faut pas être en face de ça. Donc, on se met du côté plus nord, parce que, étant donné que le vent provient du nord, fait qu'on va se mettre de dos avec la forêt, et ainsi de suite. Fait qu'il y a tout un... quelque chose qui te met, d'être en lien, connecté au territoire par rapport à ta sécurité, la sécurité de ta famille, puis aussi de trouver un endroit, évidemment, où ce que tu peux chasser, puis tout ça. Fait que c'est ça, les deux saisons qui viennent à s'ajouter. C'est ça. Menokamek, je suis de ce petit bébou. Menokamek, c'est quand c'est la rivière coule bien. Puis l'autre, c'est le pré-hiver. Là aussi, là, c'est là qu'on change le canot pour des raquettes. Puis là, c'est qu'on vient. Ouais. Fait que, ainsi de suite, on sort les vêtements chauds, le pré-hiver. C'est novembre, décembre, pratiquement. C'est là aussi le moment, ce que les gens appellent l'été des Indiens. C'est juste un moment qui te permet justement de faire tes dernières préparations avant les grosses neiges. Fait que oui, les feuilles sont tombées, les premières neiges, les animaux, ils changent de leur fourrure épaississent, les ours, hibernent, les amphibiens aussi, là, c'est tout ça, là. Ils dorment. Fait qu'au printemps, Menokamek, au pré-été, c'est l'inverse. Et ça continue comme ça. Fait que c'est toutes des choses que j'ai réappris, que je connais bien aujourd'hui. Fait que c'est beaucoup grâce à mes parents. Et aussi des gens que j'ai rencontrés sur mon chemin pour me parler de vie spirituelle. Mon ami qui était là, qui faisait beaucoup les enseignements. Moi, j'étais là pour le soutenir dans ces choses. Fait que c'est ça. On a appris, j'ai appris tous ces éléments-là pour le soutenir. Puis aussi, ramener le son du tambour. Fait que en gros, c'est un petit peu comme ça. J'ai fait mes... la redécouverte de la culture. Fait que c'est pas mal ça. Ouais.
Merci, Miigwetch. Les saisons, là, ça me fait penser à ton travail pour l'organisme Inuashin, puis l'album, justement, que vous avez fait sur les 6 saisons avec 6 chansons.
Oui, c'est ça. Pour moi, Inuashin, ça a été facile pour moi de me joindre avec deux autres Anishinaabe. On a mis ça sur pied. Ça a été facile parce que je le faisais tout le temps depuis tout jeune. Faire des arts, faire de l'artisanat, apprendre l'histoire, puis apprendre aussi, à un moment donné, toute la vie spirituelle un peu qu'on connaît pas du tout. Fait que toutes ces choses-là, ces composantes-là, ces savoirs-là, ben je les applique à Inuashin. Et comme je dis, c'était facile de me joindre à ça, de dire « OK, on y va ». Parce que auparavant, je faisais des choses. Oui, je faisais de la peinture, je faisais de l'artisanat, je travaillais le cuir. Mais seul, là, j'ai pas 3-4 personnes avec moi. Alors que présentement, on est plusieurs. Là, on n'est plus isolé, puis on le fait tout le temps. C'est pas juste un moment qu'on le fait, comme les Pawa, par exemple. Les Pawa ou les rassemblements culturels, c'est juste un temps. Une fois que tu as fini, ou en tout cas, te demande un service, une fois que tu es fini, on sort dans le garde-robe, là, puis ça finit là. Alors que actuellement, c'est toujours le travail est toujours en continu. Les réflexions, les idées. Fait que Inuashin, c'est vraiment un moteur d'idées, de possibilités, de liberté aussi, parce qu'on est libre de faire ce qu'on veut, qui on est. On n'est pas attaché à un conseil de bande, un conseil tribal, un gouvernement paragouvernemental. On est libre de faire ce qu'on veut. Avec la générosité pour des gens, des porteurs culturels qui contribuent justement à l'éclosion, ou en tout cas la réappropriation de la culture. C'est ce qui fait la beauté. Parce que les gens, les Anishinaabe autochtones, c'est des gens qui sont généreux de partager. De voir, évidemment, aussi l'aspect d'ouverture, d'inclusivité. Parce que c'est pas juste, oui, on est focusé sur la culture Anishinaabe, la langue, parce que je parle couramment l'Anishinaabe. Et c'est d'amener des partenaires, des gens qui sont tantôt québécois, tantôt anglophones, une multitude d'origines qui contribuent à ce développement-là de reprise de l'identité, de la langue, de travailler sur des enjeux linguistiques, culturels. On travaille beaucoup là-dessus. C'est pas facile. Parce que, justement, quand on regarde le contexte de décolonisation, parce qu'on est colonisé, c'est de renverser ça. Parce que le discours est là. Mais souvent, nos gens ne comprennent pas ce que ça veut vraiment dire. La signification de décolonisation, une fois tu commences à comprendre ce que ça veut dire, là, on peut parler de décolonie. Qu'est-ce qu'on fait pour arriver à ça? Fait que Inuashin se situe un petit peu là-dedans, en dialoguant avec les autres cultures, en focusant sur comment on va faire les choses. Puis aussi, parce que oui, on a une façon, une conception, une vision de comment que c'est fait, comment l'Anishinaabe s'affirme. Puis souvent, c'est repris. Dans ce qu'on dit, puis les gens ont souvent fait ça par le passé. Les Autochtones parlent de ci, les médias, c'est beaucoup ça. Hein? Vous comprenez sûrement ce que je dis là-dessus. Puis ça, c'est une habitude, une mauvaise habitude de toujours apprendre les Autochtones, peu importe laquelle, les Anishinaabe ou les Innus, hein, de les reprendre, de dire c'est les Anishinaabe, les Innus pensent de même, non? Il faut arrêter de faire ça. Dans l'affirmation, dans la décolonisation, c'est ça, il faut laisser la place pour... À leur parole, c'est comme ça qu'on le dit. Tu sais, c'est à l'envers. Là. Nous, on n'est pas à l'envers. C'est vous autres qui êtes à l'envers. Non, mais c'est vraiment ça. Dans le parler, aussi dans la façon différente des choses. Tu sais, les arts, par exemple, j'en parlais au vernissage. J'ai cherché pendant des années comment on peut, si un mot autochtone qu'on peut dire, pourrait dire « or ». Il n'y en a pas. C'est trop, c'est vague, on ne voit pas. Parce que ce qu'on nomme la langue Anishinaabe moine ou autre, c'est basé sur l'animé, l'inanimé. C'est beaucoup là-dessus, là. Et que le langage, l'Anishinaabe moine, c'est ça. C'est quelque chose de palpable. C'est quelque chose qu'à première vue, on va nommer quelque chose de ce qu'on voit. Fait que c'est basé un peu là-dessus parce qu'il y a des nouveaux mots qui, par les années passées, il y a longtemps, les gens ont pu identifier et nommer certaines affaires d'après ce qu'ils voyaient. C'est l'éléphant. Il n'y a pas d'éléphant en Amérique, mais on a pu trouver un nom. C'est le meilleur exemple parce que c'est un grand tronc, puis Oshkiji, c'est ça qu'on appelle Oshkiji, c'est le museau. Le museau qui s'enroule. C'est comme ça, Oshkiji. C'est comme ça qu'on a pu le nommer. Fait que c'est comme ça que le Anishinaabe moine, c'est comme ça que c'est en fait, là, par le visuel. Ce qu'on voit, le nom. Les arts musicaux. La musique, on peut l'entendre, on peut jouer avec les instruments, parce que c'est palpable, puis on peut l'entendre. Nous, Dagotugan, Nagamouin, tu es Nagamouin pour la chanson. Nous, Dagotugan, c'est la radio aussi, là. Mais c'est aussi l'instrument. Kizi Bategen, c'est le violon aussi, là. Aussi, là, il y a ça aussi. Fait que Mazini Began, le dessin, Mouji Began, l'écriture. Il y en a quand même beaucoup, là, Nîmes. La danse et tout ça, c'est tout nommé parce qu'on peut le voir. Alors que l'art, j'arrive à la conclusion, c'est comme... ça devient une entité. C'est parce qu'on ne peut pas le voir. C'est comme un esprit. Un esprit qui nous habite, qui nous inspire des fois. C'est pas tout le temps le cas, mais la plupart du temps, pour un créateur, un artiste, un porteur culturel, c'est ça qui l'inspire à créer quelque chose. Puis si on est ensemble, c'est encore mieux. Oui, oui, individuellement, c'est bien, mais je vous dis, si on fait quelque chose collectif, comme l'exposition NIN, c'est fort, là, parce qu'on n'est plus tout seul. On n'est plus tout seul, pas dans un coin, mais en retrait, on est ensemble, puis on se consulte, puis on s'encourage pour avoir quelque chose qui est représentatif de ce qu'on veut représenter. Fait que Nîmes, c'est un peu ça, le reflet d'une nation Anishinaabe qui veulent se reprendre en main justement pour enlever, enrayer, en tout cas soigner, guérir tout le défendu des années antérieures avec la loi sur les Indiens, les pensionnats, tout ça, justement pour... On guérit pas de ça. Les cicatrices qui sont là... sont là pour ne pas oublier. Tu te coupes, là, puis la cicatrice va être là. Hein? Mais ça va te rappeler que tu ne devais pas faire quelque chose, ou en tout cas, tu as été empêché de faire, ou tu as fait un accident. C'est vraiment pour se rappeler certaines choses qui nous ont fait mal dans la vie. Fait que c'est un peu le concept Anishinaabe de la chose, autochtone aussi. Fait que les enseignements sont vraiment basés sur ce qu'on voit, sur ce qu'on vit. Mais par contre, l'art comme tel, c'est pas quelque chose qui vient d'ici. C'est comme Mandou, c'est un esprit qui est là, qui on voit pas, qui se promène. Puis c'est un peu comme ça. Fait que le premier chant qu'on va entendre, s'appelle Nibin. Nibin, c'est l'été. Dans le contexte de rassemblement de la boîte Rouge-Vert, du musée, du vernissage, de l'exposition, c'est dans ce contexte-là. Puis l'été, c'est vraiment ça. Fait que la musique qu'on va entendre, c'est été faite avec Musique Nomade. On s'est mis à deux, puis l'équipe de Menoisin, Emilio Wawati, moi-même, Simon Walls, puis les gens qui travaillent pour... Menoisin, puis Musique Nomade aussi. C'est le deuxième enregistrement qu'on fait, là. Fait que Nibin, c'est vraiment ça, là. C'est le portrait de rassemblement festif. Et le rythme, évidemment, fait partie de ça. Voilà.
C'est
C'est quoi le titre de l'album?
Nogum Negumwin. Aujourd'hui, chanson. Tu vois, c'est à l'envers, là. C'est Nogum Negumwin. Maintenant, Negumwin.
Fait qu'on va l'écouter maintenant. Donc, on écoute Niben.
Niben.
L'été.
So be Jack nigga bashin' on Kidoki Doki Doko. So be Jack nigga bashin' on Kidoki Doki Doko. So be Jack nigga bashin' on Kidoki Doki Doko. So be Jack nigga bashin' on. Gunnar mina o day men skumme mina jish ni tapagita da ina basawa dan gigo aso bi jad ni kabesh na ni kido 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 koko aso bi jad ni kabesh na.
Voilà, de retour toujours pour l'émission Première Langue en compagnie de Roger Wilde et Véronique Odette et moi-même. Justement, avant qu'on diffuse la musique dont tu nous as parlé, tu nous as un peu parlé de Nin, l'exposition donc, qui a été inaugurée hier le 21 octobre, je le rappelle, au Musée de la civilisation de la belle ville de Québec sur la langue Anishinaabemowin. Est-ce que tu avais envie un peu de nous parler de cette exposition, peut-être sa jeunesse? Tu en as parlé tout à l'heure de pourquoi il était important, d'où vient cette idée de cette exposition qui est enfin aujourd'hui, je pense, pour une première dans un musée, de valoriser, de parler aussi Anishinaabemowin dans un institut ô combien colonial qui est l'Institut muséal.
En fait, l'exposition aujourd'hui qui s'appelle Nil, on a gardé le mot Nin qui veut dire moi, je, et nous, évidemment, de plus dans une vision poétique de la chose. En fait, Nin est parti d'une rencontre qu'on appelle Miaja. Mi-ajal, ça veut dire ça y est, c'est là, là. C'est maintenant. Fait que on en a fait 5 rassemblements jusqu'à présent. On a eu le dernier à Témiscamingue First Nation, au Témiscamingue, qui a rassemblé 200-300 personnes pour discuter puis de présenter, entre autres, Nogum Negamwin, le dernier album qu'on a fait avec Musique Nomade. Donc, c'est le deuxième rassemblement. Donc, ça remonte quand même en arrière parce que, tu sais, on fait nos rassemblements aux 2 ans pour se donner le temps de produire, de développer de nouveaux projets puis de les présenter, de les partager. Fait que Miage 2 a amené des gens à se rassembler autour des enjeux linguistiques de la langue Anishinaabemowin. Parce qu'il y a des enjeux qui sont très importants pour les gens qui enseignent dans les écoles ou en tout cas par les moyens qu'ils ont. Et aussi dans le parler quotidien, il y a tous ces aspects-là qui ont été discutés en atelier pour connaître leurs préoccupations, ce qui s'est fait par le passé, ce qui se fait aujourd'hui, puis vers où on veut y aller. Fait que le deuxième rassemblement de Miage a amené ces propos-là justement pour connaître un petit peu vers où que les gens souhaiteraient aller. Parce qu'il y a vraiment une inégalité entre les communautés Anishinaabe. Il y en a qui le parlent encore beaucoup. C'est comme Kitsakek, c'est très parlé aussi encore, ou encore Kitaganik dans le parc, c'est encore très vivant, comparé à d'autres du côté du Témiscamingue, par exemple. Je ne les nommerai pas, là, mais ils vont se reconnaître où est-ce que la langue coloniale anglophone est prédominante dans ces communautés-là. Fait que c'est plus... ça a été difficile pour ces gens-là de préserver l'Anishinaabemowin. Donc, en rassemblant les gens, les locuteurs, interlocuteurs, les linguistes, les professeurs, on a pu discuter de ces enjeux-là. Donc, suivant l'événement, on a évidemment réfléchi comment qu'on pouvait aider les communautés à préserver, à trouver les moyens... et ainsi de suite. On continue de travailler actuellement là-dessus, là, un groupe qui travaille là-dessus, un genre de comité qu'on a mis aux Étaudanes, travaillons ensemble. Fait que suivant ce deuxième rassemblement-là, en ayant toutes les composantes, tous les ateliers, les notes qui ont été prises dans ces ateliers-là, ça nous a amené à faire une première exposition. Une première exposition sur la langue itinérante qui pouvait se promener. Fait que c'est dans les 3 langues, évidemment, l'Anishinaabemowin était à l'avant, mise à l'avant-plan de l'exposition. Il était subdivisé en sections. Et puis, c'est parti de le premier moment où ce qu'on a pu le dévoiler, ou en tout cas le lancer, c'était à l'UNESCO à Paris. Fait que c'est parti de là. Il y avait beaucoup de gens Anishinaabe là-bas, autochtones, puis le timing, comme on dit, c'était un bon moment pour le lancer. Fait qu'il est revenu au Québec, puis là, on a fait le tour de toutes les communautés dans les écoles pour le présenter aux plus jeunes, et puis d'échanger, puis d'avoir évidemment aussi leur réflexion par le biais de petits rubans qu'on retrouve dans l'exposition ici. Là. Ça fait longtemps qu'ils sont ramassés, puis à certains moments, c'était dans les écoles à ce moment-là, la tournée des 9 communautés, mais aussi après, c'est dans des activités qui nous amènent à présenter Nin et de rencontrer aussi les jeunes. Parce qu'on rencontre les jeunes continuellement, évidemment, selon évidemment le type d'activité qu'on fait. Mais dans ce cas-là, c'était vraiment des choses que les enfants, les jeunes souhaitaient avoir. Fait qu'il y a des petits mots, des petits messages qu'on a gardés, puis c'est ça. Fait que ça, c'était une première. Suivant ça, on a eu évidemment des rencontres avec le Musée de la civilisation par le biais de le défunt projet Espace Bleu. Et, fait que ça, c'est... On a continué à vouloir, la volonté de vouloir travailler ensemble était là, bien présente. Fait que ça a donné qu'à un moment donné, tu sais, pourquoi pas présenter Nin dans un contexte muséal. Fait que, puis là, on continuait à parler, jaser, échanger, tout ça. Ça a donné ça. Beaucoup de travail, 2 années de travail, puis avec le résultat qu'on voit. Justement, pour qu'on puisse se reconnaître en tant qu'Anishinaabe dans cette exposition-là.
Juste pour être sûr d'avoir bien compris, ce qui voyageait en fait à l'UNESCO puis dans les écoles, c'était comme une petite exposition qui n'est pas celle exactement qu'on retrouve au Musée de la Civilisation, mais c'est des petits panels, genre?
Oui, c'est des petits panneaux, je pense qu'il y en avait 6, puis qui pouvaient se déplacer avec des... Puis aussi, étant donné aussi c'est la période pandémique, il fallait évidemment qu'on puisse, évidemment, les désinfecter, parce qu'il y a quand même un peu de manipulation, là, fait que ça aussi, c'est un peu restreint dans le montage du la première exposition. Celle-ci, il y a pas mal plus, il y a vraiment une différence, mais certains éléments ont été retenus dans la première, puis transposés dans celle-ci, qui est celle-là, c'est pas itinéraire, là, c'est, il va être là pour un an et plus, là, fait que c'est ça, en 2027, c'est la date butoir, là.
Tu nous as dit aussi que tu étais gardien de la langue et de la culture pour Minwashin, puis que tu as travaillé sur la validation de la langue Anishinaabemowin dans l'exposition NIN.
Oui, je déteste les titres. Je déteste les titres. Fait qu'avec Denise Lavoie de la boîte Rouge-Vif, on a souvent réfléchi. C'est quoi qu'on... T'es... Non, je ne suis pas un directeur, non. Je ne suis pas adjoint, non. Je ne suis pas directeur artistique. C'est parce que ça n'a rien à voir. Mais à un moment donné, on parle, on jase. Puis, ben, gardien, ce serait quelque chose... Oui, oh, OK, oui, gardien, ça convient mieux dans le contexte. Le concept Anishinaabe, c'est un peu... fait que ça va de soi. Fait que je suis là pour voir les bonnes... confirmer, valider des choses qu'on amène pour les projets, parce qu'on a quand même quelques-unes qui sont tout aussi des bons projets, des beaux projets, comme Nin. Fait que Nin, c'est un peu ça, là, de voir aux besoins de chacun, puis de les alimenter, puis de confirmer sur les appellations, sur la vision Anishinaabe de la chose. Fait que c'est sûr que pour moi, faut que je puisse m'identifier à l'exposition, dire « OK, c'est Anishinaabe ». C'est, oui, c'est ça, là. C'est vraiment l'authenticité. La chose qui est comme véritable, qui est vraie. C'est ce qu'on souhaitait, puis c'est sûr qu'en ayant visité avant le vernissage, parce que l'équipe, tous les gens qui ont collaboré, contribué au projet, c'est sûr que ça vient nous chercher. Parce que, oui, moi, j'avais des attentes à un niveau, mais c'est allé pas mal plus haut, là. Fait que c'est sûr, ça vient chercher les gens.
Si je peux me permettre, je pense qu'effectivement, découverte hier, comme beaucoup de personnes, puis c'est vrai que ça vient chercher des émotions. Puis moi, j'ai eu, surtout dans ce ton de se parler avec les rubans, avec le mot justement des enfants, c'est vrai que ça vient, en tout cas, c'est assez puissant, je trouve, comme lieu, là. Puis... En tout cas, j'encourage les auditrices, les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui d'aller vraiment voir l'exposition NIN au Musée de la Civilisation, qui va être là vraiment jusqu'en 2027. Donc, il y a le temps pour aller la voir. C'est unique, c'est beau, c'est vraiment une expérience partagée et qu'on ressent, tu sais.
Oui, c'est d'amener le visiteur, les gens, à comprendre un peu plus, et non de comprendre, parce qu'on ne peut pas comprendre l'univers, la culture, tout ce qui a été fait, là, c'est quelque chose qui est là pour aider la personne à retourner chez lui puis dire, ouais, je comprends un peu plus. De dire, oui, OK, je comprends, là, je comprends un peu plus. Et non, comprendre, c'est trop large. C'est impossible de faire.
Minwashin, ça veut dire quoi?
Oui, Minwashin, ça veut dire beau, beauté, tout ce qui est bon. bon aussi. C'est ça que ça veut dire. C'est ça, c'est ce qu'on fait. On amène toute la beauté de la culture, la beauté de la langue, c'est tous ces choses-là qu'on partage généreusement avec les gens qui viennent travailler pour nous, les gens qui veulent en connaître un peu plus, qui font de la recherche, et ainsi de suite.
Et Minwashin, donc un organisme culturel dédié à la culture Anishinaabe, est basé, donc, où est-ce qu'elle est exactement?
Ben, on est un peu un truc satellite, un peu. On est réparti à Montréal, Victoriaville, à Rouyn, à Sainte-Terre, Picogan, au Témiscamingue. On est beaucoup, un petit peu, en réseau, beaucoup de rencontres, d'échanges virtuels. Mais c'est sûr aussi, c'est important d'avoir des moments de rencontre, de rassemblement, parce que une chose qui est importante pour les aînés, c'est le contact humain. Cela, c'est plus riche au lieu de se voir à l'écran. C'est bon, mais sauf que le contact humain, surtout pour les aînés, elle est importante, là, prend tout son sens.
Le temps file toujours trop rapidement dans ces émissions en trop bonne compagnie. J'avais envie, à ce moment-là, peut-être de lancer la deuxième musique que tu nous avais suggérée. Je pense que c'est l'automne. Est-ce que tu pourrais nous en parler?
Oui, l'automne, ben, c'est là. Hein. Ça se passe là présentement. C'est la chasse. La période où ce que les animaux, en fait, leur partent. On se prépare déjà pour le pré-hiver, petit baboon. Avec Tagwagon, c'est ça. Tagwagon, qui veut dire automne. Je ne connais pas la véritable signification, parce que si on décortique le mot, souvent, l'origine de ce mot-là, il y a tellement de longtemps qu'on... je dirais pas la perte de la langue, la perte de vitesse de la langue. Chaque mot se décompose, se décortique, veut dire telle affaire. Ça veut dire ça, ce sont comme mis ensemble pour dire quelque chose. Fait que Tagwagon, c'est le chant qu'on va écouter.
Ben, c'est toujours issu du même album. Oui. Tagwagon?
Tagwagon.
Tagwagon.
Se que te kena mi kone aje ke chet pakuk asa ke bank semenda no pumek kone ege jutana nan e yabe win bank se no pumek no kome nek sana nek mama aden vanet nan ade go jikes yabe mamu o manchishme Mamu good, Kawija Kawajan Kogane, Babu Jordan Kogane, Oni Jani, Mitchell Bamsha Kewino, Nogomaga, Tokogan, Manege Bunaga, Questuman, Kajan and Dodmik, Kuna, Kajibisnik, Kuna, Kajiminash Mosik, Adele good, Kubadik. Bigot kuna nana ya baby jet kukuma ke kuna ogosto nwindabi kabie jasumadi mijis mosom pamazuin kizendo to kwimizik migus kundina migusu
Chani chunano talozi. Wesak
Voici de retour avec Roger Wild pour l'émission Première Langue, Véronique Odette, moi-même Cécile Alexandre. Et on arrive pratiquement, à la fin de notre émission. Et je m'étais dit, peut-être comme on fait toujours dans notre cadre d'émission, si tu avais envie, on va bien sûr te laisser le micro pour peut-être si tu avais une parole, un mot à dire pour les jeunes qui peut-être parlent pas leur langue, qui peut-être ont envie d'apprendre leur langue, l'Anishinaabemowin, puis parfois qui savent pas comment faire, tu sais, et qui peut-être avoir une honte intérieure de ne pas leur parler non plus. Qu'est-ce que tu dirais, en fait, à ces personnes-là, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes par rapport à ça?
En fait, on a un volet jeunesse cette année qui amène une collègue qui s'appelle Wanda Kripo et Itap, qui elle-même est jeune, très jeune, qui a rencontré une cinquantaine de jeunes dans sept communautés Anishinaabe au Québec, justement pour leur demander un peu ce qu'ils aimeraient faire. Puis quand on a fait le rassemblement Miaja cet été, le cinquième, on les a réunis. Puis on a continué à parler avec ces jeunes-là, puis... T'sais, nous, on les rencontre là, selon les activités, évidemment, puis on les encourage à pas désespérer. Puis de faire comprendre la culture, bon, ben la culture, ça prend du temps. Ça prend du temps de l'apprendre. Ça prend des années pour le comprendre, des mots, ce que ça veut dire. Donc, de pas désespérer, puis de continuer y aller mot par mot, pour justement arriver à créer quelque chose, ou en tout cas à comprendre tout ça, là, cet univers-là d'apprentissage. Puis peu importe ce qui arrive, les jeunes, on les soutient dans leurs difficultés, parce que la vie communautaire n'est pas toujours facile, puis il y a toujours des composantes de vie sociale, de crise sociale, qui les fait décourager. Donc, au lieu de les rabaisser, il faut les pousser vers le haut pour, évidemment, développer des choses, des talents, des savoirs manuels ou en tout cas intellectuels, d'après leur choix de vie plus tard. Fait. C'est un peu comme ça on fonctionne avec eux.
Ça sera un beau moment pour clore cette émission qui était plus consacrée à la langue Anishinaabemowin, en compagnie de Roger Wild, qui est donc gardien aussi de Minwashin, et on va dire gardien de la langue d'une certaine manière, Anishinaabemowin. Je vais te redonner le micro pour te laisser finir, en fait, clore cette émission dans la langue de ton choix, bien entendu. Je vais moi-même dire bye à tout le monde, et Véronique aussi, je te laisse le micro.
Miigwech.
Oui, Miigwech, c'est pas facile de soutenir, c'est parce que c'est continuellement un travail de tous les jours. de trouver des façons, des, pas nécessairement des solutions, mais d'expérimenter certaines avenues, certaines idées. Puis de, si on les fait pas, il n'y a personne qui va les faire, là, ou en tout cas, c'est ça, fait que c'est un travail continu qui est infini, là, puis c'est sûr que moi, je vais avoir... Fait qu'en encourageant la jeunesse, c'est sûr, on leur dit que moi, dans 10 ans, 20 ans, je serai plus là, ça va être eux autres, là, qui vont être là. Fait que, justement, d'amener des messages comme ça à des jeunes qui vont prendre le relais, c'est ce qu'ils se souviennent avec les moyens, les outils qu'on bâtit, qu'on crée, bon, ben, ça va les continuer à les soutenir dans leur développement, dans la préservation de la langue et de la culture. Voilà.
Ben, Miigwetch, vraiment, Roger, comment on dit au revoir en Anishinaabemowin? Il n'y en a pas. Ben, c'est très bien, d'ailleurs, il n'y a pas de au revoir. C'est...
Non, il n'y a pas de mot au revoir. Il y en a qui disent Matachin, mais c'est Dieu, votant. C'est plus votant. C'est Matachin. C'est un peu ça. Sinon, en quoi, c'est bonjour, c'est correct, mais on ne le dit pas. On dit, on va se revoir bientôt. Minos Gawamin, c'est un peu ça, là. Voilà.
Ben alors, à bientôt.
Di Waldam, Di Waldam. Ana Kwika, Kto Dana. Di Waldam, Di Waldam, Malian Pita Odana, Ana Kwika, Sandi Waldam. We don't
CKIA 88.3, Radio Urbaine.
Allô, je m'appelle Julie Collin et j'anime l'émission Julie lit au lit. Débutez votre fin de semaine avec de longues entrevues, des chroniques offertes par une équipe de collaboratrices et de collaborateurs, des suggestions d'activités et des actualités liées au milieu littéraire. Julie lit au lit, c'est les vendredis de 16h à 18h, en rediffusion les jeudis de 11h à 13h, sur les ondes de Sequoia FM.
Joe Nuana, fantôme psychopathe. Marjorie Napier, gentille petite âme. Monsieur Chung, se sauvant par l'allée Fantan pour l'éternité. Ce ne sont là que trois des personnages de la série Fantômes de la côte ouest, présentés les mercredis à 20h30 et qui vous en apprendra plus sur les fantômes, leurs origines et leurs espoirs.
Au cours de la dernière année, le gouvernement a fait plusieurs propositions au syndicat de médecins pour améliorer l'accès aux soins de santé. Malheureusement, toutes ces propositions ont été refusées. Devant l'urgence d'agir, le gouvernement a adopté une loi qui permettra à plus de Québécois d'avoir accès à un médecin de famille, notamment le soir et la fin de semaine, et de pouvoir consulter un médecin spécialiste plus rapidement, par exemple pour obtenir une chirurgie. Parce que notre priorité, c'est l'intérêt des patients. Un message du gouvernement du Québec.
organismes communautaires, culturels, OBNL et coopératives, ce message est pour vous. Devenez membre de CKIA et profitez de nos services promotionnels pour mettre de l'avant nos valeurs communes. En devenant membre de CKIA, profitez d'une campagne publicitaire gratuite sur nos ondes. De plus, obtenez 15 % de rabais sur tous nos autres forfaits publicitaires et services de réalisation de balado. Faites-vous entendre. Contactez-nous à pub@ckiafm.org pour les détails. Voyage, voyage!
Ici Aya, votre émission Voyage et découverte vous propose
des échappées belles au Québec et ailleurs dans le monde.
Des aventures captivantes, des idées intéressantes pour vos escapades.
Des invités